La prostatectomie celluloscopique robot assisté et à propos des résultats fonctionnels, y a-t-il du mythe, de la réalité, un peu des deux? On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et j'insiste sur le titre, à savoir que ce n'est pas prostatectomie au robot, mais celluloscopique robot assisté. Et je vais vous expliquer un peu plus ce qu'est ce robot pour éclaircir les idées. Donc, en l'espace de 20 ans à peine, donc c'est très rapide. Il y a eu un développement de la celluloscopique et de la celluochirurgie dans à peu près toutes les disciplines, et l'urologie en a profité également. Donc on dit qu'on opère sans ouvrir, en fait on enlève par des mini-incisions, vous le savez, en chirurgie digestive ça a été la vésicule biliaire, et puis en urologie ça a commencé et ça a pris très vite avec les reins, parce que les incisions pour les néphrectomies étaient parfois délabrantes. Je précise quand même que dans le service, peut-être parce qu'on a des tumeurs assez volumineuses, on continue à faire au moins 30% des néphrectomies par voie ouverte, mais 70% par voie celluloscopique. Et puis a suivi la prostatectomie, l'intervention pour cancer de prostate, qui est quand même très importante, puisque en incidence, c'est le premier cancer de l'homme aujourd'hui, et on est sur 60 000 nouveaux cas par an environ. Hein. Donc c'est des choses très importantes. 10 ans plus tard, la chirurgie robotisée est apparue, comme le prolongement naturel et l'amélioration de la celluloscopie, comme vous allez le voir dans les diapositives suivantes. Avec quand même, pour situer un peu le problème, une seule firme, Intuitive Surgical, qui a développé un seul modèle et qui donc a bénéficié des développements de cette robotique avec une croissance exponentielle. Et peut-être que cette situation de monopole doit inciter un peu de prudence quand même. Voilà. Et donc à Bordeaux est né un projet, enfin au CHU, un projet urogynécologique qui en fait n'est plus urogynécologique seulement, je vais en dire un petit mot. D'autres spécialités ont pris le train en marche. D'acquisition d'un robot pour le CHU, pour en faire bénéficier les patients et pour faire développer la technique. Donc c'est un projet multidisciplinaire et cohérent, avec cette phrase clé que hier c'était trop tôt et demain c'était trop tard, parce que hier on n'était pas sûr du tout que ça avait un intérêt, et c'était des sommes faramineuses à mettre en jeu, et on ne pouvait pas investir pour 5 ans comme ça à l'aveugle. Bon, mais on a eu quelques résultats qui nous ont incités à penser que ça valait le coup de s'y mettre. Et demain trop tard, parce que quand même il y a de la concurrence, on est dans un système concurrentiel aujourd'hui, il y a d'autres robots sur la ville de Bordeaux, et il est important que cette offre de soins soit disponible également de manière gratuite au CHU. Alors il est multidisciplinaire, on en reparlera si vous le souhaitez après. Donc l'urologie est la plus concernée par rapport aux interventions qui sont pratiquées pour l'instant, mais la gynécologie s'y met et a déjà démarré pour certaines hystérectomies, voire des cures de prolapsus complexes, type promontofixation. En chirurgie cardiaque, dans certaines indications, certains pontages pourront être réalisés en évitant les grandes sternotomies. En chirurgie digestive, et toujours dans la chirurgie du petit bassin, ça sera la chirurgie du rectum, et principalement pour le cancer colorectal. Et enfin, en ORL, de manière assez étonnante, le robot et ses petits bras vont être capables de passer à travers la bouche pour traiter des cancers de la base de la langue et éviter des cervicotomies très délabrantes pour l'image et puis pour le confort aussi du patient qui oblige à des trachéotomies, etc. Et donc ces 5 spécialités sont déjà dans les starting blocks et sont en train de démarrer leur programme. Alors le phénomène Da Vinci, c'est le nom du robot que vous allez voir après. Comme vous voyez ici, c'est lui là. Alors il y a un petit rappel des ajouts techniques, à savoir qu'au début il avait que 3 bras, maintenant il a 4 bras. Il y a des écrans tactiles extérieurs qui ont un intérêt pédagogique, puisque la personne qui est ici peut être le formateur qui montre au chirurgien junior, en l'occurrence en train de travailler, comment il peut faire. Et c'est une firme donc très jeune, puisque ça a démarré en 95 et même en 97 la commercialisation de leurs premiers appareils, donc il y a à peu près une dizaine d'années. Alors ça allait très vite. Aux USA aujourd'hui, vous avez plus de 1000 dispositifs sur l'ensemble du territoire. C'est absolument énorme. En Europe, vous en avez déjà plus de 300. Et en France, vous en avez 28. 28, ça correspond à peu près au nombre de villes universitaires en France. Et celui dont on vient de faire l'acquisition, le tout dernier modèle au CHU à Bordeaux, est le numéro 28. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce robot finalement? C'est un système à 4 bras... Qui tient des instruments qui sont des instruments qui ressemblent à ceux de la celluloscopie, qui passent à travers des trocars à l'intérieur de la cavité abdominale. Simplement, les bras ne sont plus tenus par le chirurgien, les instruments ne sont plus tenus par le chirurgien, mais par les bras du robot. Et ces bras du robot sont commandés par le chirurgien qui, lui, est à quelques mètres dans la même salle, sur une console opératoire. Et avec ses mains, il manipule des joysticks, vous voyez ici, ces mouvements étant transmis au bras du robot qui reproduit à l'exact, à l'identique, les mouvements désirés par le chirurgien. Donc, si on voulait être précis dans la terminologie, il faudrait parler de télémanipulateur plus que de robot. Mais enfin, le terme robot est plus simple pour tout le monde. Alors, y a-t-il des avantages par rapport à la scélioscopie ou la laparoscopie conventionnelle? La réponse est oui sur le plan technique. Le chirurgien regarde dans quoi? Il regarde dans un écran qui a deux parties, une pour l'œil droit, une pour l'œil gauche. L'image qui est transmise est celle de l'optique tenue par un des bras du robot à l'intérieur du patient, et c'est une optique avec une lentille binoculaire, si bien que ça donne une vision en trois dimensions. Je suppose que dans cette salle, un certain nombre de personnes ont vu le film Avatar, peut-être en trois dimensions avec les lunettes, et bien on se retrouve à peu près dans les mêmes conditions, et donc on voit en trois dimensions avec une profondeur de champ, ce qui est très agréable par rapport à la scélioscopie conventionnelle où on travaille sur un écran de télé et où on n'a que deux dimensions disponibles. Donc on a la vision 3D, et puis on a des instruments qui sont, vous les voyez ici, extrêmement mobiles, 7 degrés de liberté, c'est-à-dire supérieur à ce qu'est capable de faire la main humaine. On ne peut pas faire un 360 sur nous-mêmes parce qu'on est limité par nos structures osseuses, alors que les instruments le peuvent, comme vous allez le voir sur un petit film de 30 secondes. Les mouvements sont démultipliés avec un facteur qu'on décide, c'est-à-dire que si on bouge le bras de 10 cm, on peut demander au robot de ne le bouger que d'un centimètre. Ça n'a pas tellement d'intérêt pour nous, chirurgiens urologues ou les gynécologues, mais pensons à des pontages en chirurgie cardiaque, puisque je vous ai dit que c'était possible, où on a à coudre des vaisseaux qui font à peine 1 à 2 mm de lumière. Là, ça peut avoir un intérêt très important. Suppression du tremblement physiologique, puisque ce sont des câbles électriques qui transmettent les mouvements, alors que lorsqu'on était encore en scélioscopie avec nos instruments, si tant est qu'on soit un chirurgien qui tremble, notre tremblement était transmis. Et puis, fatigue moindre du chirurgien, c'est la seule chose qui a été prouvée de manière claire et nette dans la littérature, donc ça a valu le coup de le préciser. Ça peut être important pour le patient, surtout pour le deuxième patient de la journée. Si le chirurgien est moins fatigué, on peut penser qu'il fera mieux son travail. Bon, tout ça, ça entraîne une précision et une performance du geste quand même accrue de manière indéniable. Alors, un petit fragment de film. Vous allez voir le film, on est à la fin d'une prostatectomie, la pièce est partie, et il s'agit de recoudre la vessie sur l'urètre, donc de faire l'anastomose urétro-vésicale, et vous allez voir avec quelle aisance les aiguilles passent exactement dans l'axe de la muqueuse de la vessie pour aller rejoindre ensuite l'urètre, en se mettant parfaitement perpendiculaire au tissu, ce qui évite toute force de traction et de déchirer, ce qui est la crainte quand on est confronté à ce challenge en fin d'intervention de descendre une vessie au fin fond du pelvis sur l'urètre. Alors j'espère que la luminosité n'est pas trop gênante. Donc vous voyez les bras là qui ressemblent à des becs de canard, un peu la sonde en vert, et ici l'aiguille qui va aller dans l'urètre. Alors, la caméra nous permet de travailler très très près. On est à 1 cm hein, du champ opératoire avec la caméra. Et puis après, grâce aux articulations, aller repiquer la vessie dans un axe parfait, de manière très atraumatique. Et on rapproche petit à petit donc cette vessie de l'urètre. Alors le mythe c'est ça, c'est avec l'opération par robot, en l'occurrence la prostatectomie dont on parle aujourd'hui, vous serez continent, vous n'aurez pas de fuite urinaire, puisque c'est ça qui fait peur. Vous ne serez pas impuissant non plus, vous garderez votre puissance sexuelle. Et la question subsidiaire que j'ai mis entre parenthèses qui compte, c'est est-ce que je vais être guéri? Parce qu'il faudra garder à l'esprit en permanence, quand on raisonne par rapport aux résultats fonctionnels de la prostatectomie, c'est-à-dire garder aux gens leur continence et leur puissance sexuelle, le fait de guérir leur cancer avant tout. C'est la priorité première. C'est sûr que si on taille dans la prostate et qu'on fait ce qu'on appelle des marches positives, en laissant, entre guillemets, une partie de prostate, les patients vont être continents et garder leur sexualité, mais enfin, ils auront encore leur cancer en place et ils auront droit au rayon derrière, voire les hormones. Donc, on ne leur aura pas vraiment rendu service. Et donc, il faut interpréter avec caution la deuxième phrase qui pourrait être dite que hors du robot, il y a point de salut. Maintenant que le robot existe, il faut se faire opérer par ça, et si on se fait opérer autrement, on sera incontinent, impuissant, enfin, ça se passera mal. Ça, c'est du mythe. Je vais vous le montrer, puisque On a eu la chance d'avoir une revue de la littérature faite par un collège d'urologues européens extrêmement précise et fouillée il y a très peu de temps. Tout est dedans, je vous rassure, je ne vais pas tout vous imposer, mais je vais vous montrer les choses essentielles. Alors quand on raisonne en termes de résultats fonctionnels sur la continence et les érections, de toute façon on est confronté à des difficultés de comparaison. Existe-t-il des études randomisées, à savoir qu'on a comparé le robot face à autre chose, et c'est la première question. Vous allez voir que la réponse est presque non, c'est très dur à mettre en place. Ensuite, des problèmes de définition quand on parle de résultats fonctionnels. Même si c'est des choses très importantes, ça veut dire quoi être continent? C'est le problème auquel on est confronté en permanence, nous, urologues, quand on veut monter des études, et peut-être vous, quand vous discutez avec vos patients suite à des interventions, est-ce que je suis continent ou pas? Est-ce que c'est zéro fuite? Est-ce que c'est zéro protection? Est-ce que c'est zéro fuite tout le temps ou alors au repos, etc. Pareil pour les érections. C'est bien beau d'avoir des érections. Il y a des chirurgiens qui vous mettent dans leur courrier, oui, mon patient a retrouvé des érections, mais enfin, quand on fouille un peu le questionnaire, il a des érections, mais il n'est pas capable d'avoir des rapports avec ses érections, on n'a pas rendu service. Donc c'est très difficile à préciser tout ça, et c'est important de le souligner. Et puis l'inégalité des moyens d'appréciation, par qui sont évalués les patients, évaluation médicale, auto-questionnaire, tout ça c'est des questions très importantes qu'on met en avant quand on fait une revue de la littérature pour savoir si les choses ont été évaluées correctement. Ensuite, il y a des niveaux de preuve. Alors, je vous l'ai juste mis là pour vous dire que l'idéal, ce serait les niveaux de preuve numéro 1, c'est-à-dire la revue d'essais contrôlés au pluriel et randomisés. Le niveau de preuve 2, c'est quand on a une étude randomisée de bonne qualité, au moins une. Et la plupart du temps, en matière d'évaluation de la robotique, on est en 3, c'est-à-dire des essais non randomisés, parfois prospectifs et encore, c'est rarissime. Et on sait très bien, quand on étudie les choses en rétrospectif, on a des biais. Donc c'est les 3-2 et 3-3, les cohortes et les 4 témoins. Et enfin, après, on a des niveaux de preuve 4, qui sont ceux auxquels, en termes de robotique, on est le plus confronté actuellement, à savoir, c'est des études descriptives, des cas cliniques, des avis d'experts, des gens qui vous disent, moi, dans mon expérience, c'est absolument fantastique. Oui, on doit en tenir compte, mais enfin, ça reste du niveau de preuve 4, c'est-à-dire modérément intéressant sur le plan scientifique. Alors, les abréviations que vous allez voir, là, c'est... Très vite, c'est le R pour robotique. Quand on parle de prostatectomie robotisée, c'est comme ça que son abréviation figure en général. Le L pour laparoscopique radical prostatectomie, donc quand c'est célioscopique, puisque maintenant on compare la célio au robot. Et le RRP, c'est le rétro-pubique, c'est-à-dire la voie ouverte, c'est-à-dire ce qui pourrait faire partie de l'histoire. Je fais quand même un petit aparté, parce qu'il y a eu des études au niveau national qui ont été faites par l'Association française d'urologie à la louche aujourd'hui en France, compte tenu des degrés d'équipement divers des uns et des autres, il y a au moins, 70% sans problème des prostatectomies qui sont encore faites par voie ouverte. Alors voilà, une grande revue de la littérature a été faite en 2009, c'est très récent. Vous voyez, les auteurs sont très nombreux. C'est l'Association européenne d'urologie qui fait vraiment référence dans le monde sur le plan scientifique. Ils ont comparé la voie rétropubienne, la voie célioscopique et la voie robotique. Ce n'est pas leur patient, ils ont fait une revue systématique de la littérature, de ce qui avait été produit sur les 10 dernières années, en classant les niveaux de pertinence et en tirant des conclusions applicables à l'échelon européen, qui sont suivies par l'Association française d'urologie. Alors pour ce qui est de la continence, qu'en est-il ? Ils ont ici résumé quelques études qui paraissaient intéressantes, alors ont été comparées deux à deux les différentes techniques que je vous ai montrées. Quand on compare la voie rétropubienne et la voie célioscopique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les différences, elles sont à peu près de ce niveau-là. Quand on compare 222 patients opérés par voie ouverte à presque 200 patients opérés par voie célioscopique au Memorial, qui est le plus grand centre anticancéreux à New York, il y a 82% des patients à 2 ans opérés par voie ouverte qui ont récupéré une continence parfaite, contre 62% pour la voie célioscopique. Donc la voie ouverte fait mieux dans cette comparaison-là, par des experts en la matière. Quand on compare la voie rétropubienne toujours, donc ouverte, à la voie robotique cette fois-ci, une grande équipe qui fait énormément de robotique, celle qui en fait le plus à Détroit, et qu'on compare 100 voies ouvertes versus 200 voies rétropubiennes, donc ça commence à être intéressant, on a des résultats qui sont un peu mitigés, à savoir que ça, c'est un délai moyen, c'est day pour jour, de retour à la continence. Alors ça va plus vite avec le robot, c'est 44 jours pour retrouver une continence avec le robot, contre 160 avec la voie rétropubienne, pour la moitié des patients. Donc, cette étude tendait à montrer que ça allait plutôt un peu plus vite avec le robot. C'est assez intéressant, mais ce n'est pas plus, c'est juste un peu plus vite. Et quand on a comparé là la voie célioscopique avec la voie robotique, donc on fait que de la célio, ou alors on se met à faire du robot comme je vous ai montré, 50-50, on est exactement dans les mêmes chiffres, à savoir qu'environ 90% des patients retrouvent une continence tout à fait correcte à 6 mois, et il n'y a pas de différence entre les deux. En résumé, pour la continence, aujourd'hui, à partir de cette étude qui a été extrêmement fouillée et précise, la voie ouverte, selon les études, selon les degrés d'ancienneté des études, etc., permet de récupérer une continence satisfaisante dans 60 à 93% des cas, la voie célioscopique 66 à 95% et la voie robotique 84 à 97%. Donc on voit quand même que peut-être avec le perfectionnement des techniques, la célio et la robotique, on monte plus vers 90% et au-delà. Mais grosso modo, ce qu'on savait déjà pour la prostatectomie en général, depuis qu'elle a fait des progrès, parce que la prostatectomie elle-même est une intervention jeune, à maturité, entre des mains entraînées et dans des centres experts, on sait que 95% des patients vont récupérer une continence parfaite. Ça prendra parfois du temps, ça ira peut-être un peu plus vite avec le robot, mais c'est tout. Et je précise qu'on peut lire ces résultats à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut quand même considérer que même lorsqu'on est opéré au robot, on a le droit d'être incontinent après, et ça arrivera. Dans 3 à 4% des cas. Et ça, c'est vrai. Et donc, en termes de messages, que ce soit de votre part ou de notre part, à délivrer aux patients quand on les opère, que ce soit par voie ouverte ou avec un robot, une des choses importantes à leur dire, c'est que, dans l'immense majorité des cas, on récupère sa continence. Mais enfin, il peut arriver qu'on ait des problèmes de fuite qui persistent un peu dans le temps, et parfois qui durent, et parfois qui persistent au-delà de 1 ou 2 ans. Même si c'est dans un faible pourcentage des cas. Voilà pour la continence. Alors pour ce qui est de la fonction érectile, c'est encore plus compliqué. Alors je vous rappelle, c'est une coupe de prostate, une coupe transversale de prostate. Le triangle bleu, eh bien, c'est le triangle de la mort pour nous, pour les chirurgiens. C'est celui qui focalise toutes les attentions. On est entre la face postérieure de la prostate en avant et le rectum en arrière. On est à la face postérolatérale, il y a la même chose de l'autre côté évidemment. Et il s'agit de disséquer comme il faut pour préserver les bandelettes neurovasculaires, puisque les structures qui assurent l'érection chez l'homme ne sont pas des nerfs érecteurs à proprement parler, mais des bandelettes neurovasculaires qui sont un conglomérat de micro-vaisseaux, de micro-faisceaux nerveux enveloppés dans du gras, quoi. Alors, c'est toute la problématique, c'est où je décide de passer avec les flèches. Bien sûr que si je décide de passer très près, comme on dit chez nous, en intrafacial, c'est-à-dire d'entailler à la limite la prostate, je vais bien préserver les nerfs de l'érection. Mais je n'ai pas besoin du robot pour faire ça. Je peux le faire en voie ouverte, je peux le voir en célioscopie. Et par contre, le risque que je prends, et je réinsiste dessus parce que c'est le cancer dont on parle, si je décide de passer très très près de la prostate, excusez-moi, voilà la flèche, si je décide de passer très très près de la prostate, je prends le risque de faire ce qu'on appelle des marches positives, c'est-à-dire de tailler dans le cancer et d'obliger mon patient secondairement à avoir des rayons. Auquel cas, tout le monde a tout perdu. Donc il faut garder à l'esprit que la préservation de la fonction érectile dans cette intervention, c'est préserver les structures nerveuses neurovasculaires que sont les bandelettes neurovasculaires ici, qu'il s'agit de passer au plus près de la prostate. Et donc, en fait, il s'agit d'avoir très bien évalué son patient avant pour être certain que le foyer cancéreux permet de passer très près. Il existe certains cancers, dans nos courriers vous avez peut-être ça de temps en temps, où on vous dit c'est un T3, ça veut dire que la tumeur dépasse la capsule, et là à ce moment-là, de toute façon, robot ou pas robot, nous avons le devoir de sacrifier le nerf de l'érection pour guérir le patient. Donc ça, c'est ce préambule étant posé, il est vrai que peut-être le robot permet de voir mieux, peut-être il permet d'être plus précis lorsque l'indication a été bien posée, et à ce moment-là de gagner. Alors on va regarder ce que ça donne. Alors ce qu'on savait déjà, ça c'est une publication du mois de l'année 2000, pardon. Vous voyez ici les gens qui récupèrent le mieux leurs érections, donc on atteint les 60-70%, versus ici cette courbe où ça s'arrête à en dessous de 30%. Ben, c'est les gens qui ont une bilateral nerve sparing procedure, c'est-à-dire où on a préservé les deux nerfs de l'érection. Si on n'en préserve qu'un, ben on n'a pas de bonnes érections derrière. Ça c'est la première chose. On peut quand même en avoir. Voilà. Et l'autre diapo que j'ai pas mise, mais que j'aurais pu mettre, c'est ce qui compte le facteur le plus important qui a toujours été mis en avant, c'est l'âge des patients. Aujourd'hui, le cancer de prostate est diagnostiqué à des patients de plus en plus jeunes. Quand on les opère à 50 ans, ils ont quand même des chances de récupérer. À 70 ans et plus, c'est plus délicat. Voilà. Alors là aussi, toujours les mêmes auteurs ont fait la même revue très fouillée et comparé toujours la robotique à la voie rétropubienne. Alors qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence d'intéressant? Quand on comparait la voie rétropubienne à robotique, donc la voie ouverte, le délai moyen de récupération, quand ça récupérait pour la voie ouverte, était de 444 jours, c'est-à-dire quand même beaucoup plus qu'un an, alors que les auteurs, là, qui c'est vrai, ont une grosse expérience, hein, avaient mis en évidence un délai moyen, enfin médian de récupération de 6 mois. Donc, un peu comme pour la continence, quand on récupérait, ça pouvait aller plus vite avec le robot. Peut-être parce que la chirurgie était un peu plus mini-invasive et un peu plus atraumatique. Voilà. Et l'autre étude, qui avait comparé, qui était une étude prospective, donc qui avait de la valeur, la célioscopie à la robotique, montrait pour la célioscopie 36% de récupération à 3 mois, contre 46% pour le robot. Alors là aussi, peut-être les mêmes conclusions, c'est-à-dire que la différence n'est pas très importante. On sait que 3 mois, c'est trop tôt pour juger. Et peut-être, avec le robot, quand ça récupère, ça va un petit peu plus vite. Voilà. Bon, en résumé, toujours tiré de cette étude, vous voyez que pour la voie rétropubienne, finalement, les taux annoncés étaient de 10 à 93%, donc une fourchette extrêmement large qui montre que probablement, ça, c'était les séries d'il y a longtemps et probablement des séries récentes de gens qui le font encore très bien par voie ouverte. En célioscopie, une fourchette un peu plus étroite, mais dans des taux qui vont de 42 à 76% de récupération des érections. Et pour la robotique, 70 à 80%, donc on monte très légèrement, mais au total, finalement, quand c'est très bien fait par des gens qui font très bien chez les bons candidats, il n'y a pas de grande différence aujourd'hui montrée entre la voie ouverte, célioscopique et robotique. Il y a peut-être un peu de gain en vitesse de récupération. Donc ça, c'était les Américains qui, de manière assez prudente, avaient écrit cela après leurs différentes études. C'est la même équipe que ceux dont je vous ai montré les études. Ils disaient que l'assistance robotique pouvait améliorer la précision et augmenter la possibilité de faire des prostatectomies par voie célioscopique pour les chirurgiens, donc de manière plus atraumatique, mais ils ne préjugeaient pas de l'amélioration directe des résultats. Et les conclusions, alors je vais passer vite parce que ça c'est plutôt pour des urologues, mais de l'étude européenne dont je vous parlais, étaient que la qualité des études qu'ils avaient pu regarder, même s'il y a eu d'énormes publications, n'était pas excellente. Deuxièmement, la voie célioscopique et robotique, donc, permettait de gagner des taux de transfusion, de faire sortir les gens un peu plus tôt, etc., mais que les données disponibles actuellement n'étaient pas suffisantes pour prouver la supériorité de telle ou telle approche chirurgicale vis-à-vis de l'autre en termes de résultats et fonctionnels, c'est-à-dire continence et érection, et surtout oncologique. Où c'était la même chose là aussi dans l'étude des marges en particulier. Et donc, leur dernière conclusion était que des études prospectives multicentriques étaient nécessaires, aujourd'hui en 2009 et donc en 2010, pour montrer la supériorité d'un outil qui effectivement, technologiquement, offre certains avantages. Donc, en conclusion sur ce sujet, bon, clairement, la robotique est une technologie innovante, exceptionnelle et inédite, comme je vous l'ai montré, et apporte des avantages en termes de vision, de précision du geste, etc. Nous avons pu constater qu'il y a une diminution de la durée opératoire une fois que la learning curve est passée. C'est quand même important de savoir qu'il y a un certain nombre de patients à faire pour commencer à être à l'aise. Et donc, au début, il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi avec les gens. Il y aura certainement une diminution des durées moyennes de séjour, qui est plus ou moins intéressante selon les systèmes de santé auxquels on s'adresse. Ça a beaucoup plus d'intérêt aux États-Unis qu'en France, par exemple. Et elle offre, cette robotique, la possibilité de faire la combinaison d'une chirurgie mini-invasive avec des résultats qui, a priori, seront améliorés dans le temps. Alors, les résultats fonctionnels et, entre parenthèses, carcinologiques de la robotique sont pour l'instant comparables, mais pas mieux que la voie célioscopique et ouverte. On a un problème de critères d'évaluation, j'ai suffisamment insisté dessus. Peut-être un peu de continence plus rapide à prouver, et peut-être des érections un peu plus performantes et plus rapides à prouver et vérifier qu'on ne fait pas plus de marge. Donc aujourd'hui, c'est impossible de conclure à la supériorité de l'une ou l'autre des techniques. Les choses avancent. Je rappelle qu'il y a 1000 robots aux USA et vous avez vu plusieurs centaines en Europe. Il y a une vraie évaluation de coûts à faire et en termes de transfert au sein du système français, puisque rien qu'en consommable, on a déjà 2000 euros de matériel. D'où l'intérêt d'une étude nationale chez nous qui probablement va se mettre en place et d'études randomisées multicentriques. S'il y a des questions sur la robotique.
Tu
Tu veux répondre, Jean-Marie ?
Donc, oui, les vésicules séminales, elles font partie de la pièce opératoire et elles sont retirées en même temps qu'on va enlever le bloc prostato-séminal. Donc, avec, bien entendu, une section du canal déférent à quelques centimètres de son entrée dans la prostate. Et donc, l'extrémité proximale étant abandonnée sur place, après une ligature ou pas de ligature, ça n'a pas d'importance. Et par contre, les vésicules séminales qui peuvent être le siège d'une atteinte par la tumeur doivent être enlevées et font partie de la pièce opératoire.
En fait, c'est une prostato-vésiculectomie. Mais par terme usuel, on dit prostatectomie. Vous les avez là, elles sont là. C'est ça et ça, les vésicules. Et les moignons de déférence sont là et là. Voilà. Répondre, l'intérêt d'une rééducation, il est important. Alors le petit message pour les quelques pourcents de patients qui continuent à fuir, alors 5% environ, puisque grosso modo on est à 95% de continence, c'est à un an. Hein. Mais dans l'année qui suit une intervention, si on regarde, c'est beaucoup plus, vous avez dû en faire l'expérience vous-même avec vos patients, c'est beaucoup plus de patients qui sont incontinents. Donc c'est très important de se rééduquer parce que ça peut permettre de récupérer beaucoup plus vite. J'en profite au passage pour un petit message, c'est que c'est important, si les patients ils sont prêts, de leur proposer au moins la rééducation de la fonction érectile par des injections d'EDEX. Hein, donc ça, il faut nous les envoyer, c'est nous qui le faisons, ça ne nous passionne pas, mais il a été montré qu'en faisant des injections intracaverneuses pour déclencher des érections artificielles, ça pouvait accélérer la récupération de la continence. Donc c'est important. Et puis le dernier message, c'est qu'à un an, quand il y a encore des patients incontinents, on peut commencer à se poser des questions d'intervention, de maintien de l'urètre, enfin de renfort de l'urètre type bandelette, voire de sphincter artificiel si c'est nécessaire, parce que il faut pas laisser les gens comme ça. Quoi. Enfin, il y aura toujours une solution, c'est ce qu'il faut leur dire. C'est important. Mais la rééducation, oui, bien sûr.
Oui, deux commentaires. Le premier, c'est à propos donc de la prise en charge de l'incontinence persistante. Il y a presque toujours une amélioration de la continence avec le temps dans les suites d'une prostatectomie et il faut un délai d'attente relativement important avant de décider d'une prise en charge chirurgicale. Donc minimum, je crois qu'un an, c'est vraiment le minimum et ça peut être souvent davantage parce que la continence peut s'améliorer bien dans les 2 ans qui suivent une chirurgie. Donc il faut pas être trop pressé pour la prise en charge. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, la rééducation est intéressante dans les suites de cette chirurgie de prostatectomie et il est intéressant de demander aux patients l'apprentissage des contractions du périnée et c'est beaucoup plus facile de faire cet apprentissage avant la chirurgie elle-même que dans les suites où il y a la douleur post-opératoire et un certain nombre d'éléments qui sont un petit peu limitants. Donc les patients qui sont motivés, on a intérêt à leur faire rencontrer un kiné avant de les opérer pour leur apprendre quels seront les exercices à faire et ils auront beaucoup plus de facilité pour mettre ça en œuvre par la suite.
C'est pas eux qui ont pris le plus le train en marche, quoi. Et par contre, ce qu'on sait, c'est que je vous ai parlé de situation monopolistique de la firme, la Intuitive Surgical, qui est une firme américaine, qui a inondé le monde entier de ses robots. Et notamment, ça a compté quand même. On peut en dire un petit mot au moment des négociations, parce que le coût de la machine est vraiment très élevé, et c'est pas négociable. Hein. Et donc, quand le CHU l'a acheté, on a vraiment beaucoup réfléchi, et c'est pour ça qu'on a voulu un projet multidisciplinaire dont j'ai dit un mot, etc., pour essayer de rentabiliser, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais de faire travailler ce robot, quoi. Hein. Et on sait qu'il y a des... Alors, j'ai même pas le nom en tête, mais il y a... Les Japonais, ça les a intéressés techniquement parlant, et probablement la concurrence sortira quelque chose dans les années qui viennent. Oui. Enfin, c'est obligatoire. Et on l'attend, parce que ça permet de faire progresser les choses, et puis ça assainira un peu le marché d'un point de vue financier.
Ce qui s'est passé historiquement, c'est que la célioscopie pour la prostate a démarré en Europe. Les États-Unis sont restés réticents pendant très très longtemps. Et eux, ils sont passés directement donc, de la chirurgie ouverte qu'ils ont continué beaucoup plus longtemps qu'en Europe. Ils sont passés directement de cette chirurgie ouverte au robot, sans passer par la cilio pour un certain nombre de centres. Voilà. Et ça explique le fait que ce passage qui est relativement plus facile de la chirurgie ouverte au robot et a été effectif en une période de temps relativement courte, et c'est ce qui explique l'efflorescence de centres américains équipés du robot.
Voilà, bon, c'est une bonne question, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que à partir du moment où on sait qu'on a un patient effectivement très jeune avec un tout petit foyer mais pour lequel on a décidé d'intervenir quand même, puisque maintenant il existe une possibilité qui s'appelle la surveillance active, on va en dire un petit mot après. À partir du moment où l'indication est posée, c'est vrai que si c'est un jeune marié à une femme jeune, actif, et qui est, pour qui et le résultat oncologique et le résultat fonctionnel est important, et qu'on pense qu'on a intérêt à faire quelque chose de très précis et au plus près de la prostate, celui-là, on va avoir tendance à plutôt le proposer le robot pour essayer de travailler au plus précis possible. Inversement, je vous ai montré là où étaient les nerfs. Si c'est une tumeur qui est T3, c'est-à-dire qui dépasse le stade, la capsule qui n'est plus intracapsulaire, mais extracapsulaire, et l'IRM permet de le savoir, et qu'on voit bien que les nerfs érecteurs sont à sacrifier de toute façon, on n'a pas un intérêt majeur à le passer à tout prix au robot, et après ça va être une histoire de délai, si on doit le faire en célioscopie conventionnelle, on le fera en célioscopie. Par contre maintenant c'est vrai que je crois qu'on a pris le virage de la célioscopie, ici nous, on fait toute notre prostatectomie sous célioscopie, ça se passe très bien, et on ne fait plus de prostatectomie par voie ouverte.
Oui, ça fait plusieurs années qu'on a arrêté les prostatectomies ouvertes, effectivement. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le bon chirurgien, il doit faire le geste lui-même dans les meilleures conditions possibles, mais aussi, il doit effectuer une évaluation de la lésion à traiter la plus précise possible, parce qu'en fait, il faut déterminer les modalités techniques de la prostatectomie, donc l'étendue de l'exérèse, comme vient de vous le dire Gilles Pastissier, qui soit la plus adaptée à la lésion en place. Effectivement, il faut une évaluation très précise de la lésion par le PSA, par les biopsies, le résultat, l'interprétation du résultat des biopsies prostatiques, par l'imagerie, par l'IRM, pour déterminer l'étendue de la tumeur, l'étendue précise, et savoir si on peut passer très proche ou au contraire, s'il faut élargir pour des raisons de résultats carcinologiques. Voilà, la vraie question, c'est ça. Et c'est en fonction de cet élément, eh bien, on va déterminer quelle prostatectomie il faut faire pour quel patient, parce qu'en fait, les cancers de prostate, c'est jamais exactement pareil d'un patient à l'autre.
On s'habille au début avec un assistant, on met en place les instruments, puis une fois que les instruments sont en place, on se déstérilise, on va s'asseoir à côté et on commence à travailler. D'accord. Et il y a un assistant sur le champ opératoire pendant toute l'intervention. Okay.
La durée est identique à la célio ou aux autres ?
Alors, une fois la learning curve passée, elle est même... ceux qui en font beaucoup vont plutôt un peu plus vite. Parce qu'ils ont une meilleure vision, pas de problème d'angulation des instruments. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut. Donc, une fois qu'on a l'habitude, on va plutôt un peu plus vite. Bon, grosso modo, c'est entre 2 et 4 heures selon la précision du geste qu'on s'est fixé. Quoi.
Parler des trucs à long terme, incontinence, érection, mais enfin hémorragie de la loge, toutes ces choses, je sais pas tout ce qui peut arriver quoi en chirurgie urologique dans le court terme, c'est pareil.
Clairement, la célio fait mieux que la voie ouverte en termes de complications post-op, et a priori le robot doit faire au moins aussi bien que la célio, on va dire comme ça.
Voilà. Si l'outil est bien utilisé, ça rejoint la question du monsieur d'avant. Si l'outil est bien utilisé, on n'a pas parlé des complications post-opératoires parce que vraiment, il n'y en a pas. Quoi. Avant, il y avait une incision, on pouvait avoir des problèmes septiques éventuels. On ne connaît plus ça. Problème hémorragique, avec la vision qu'on a, etc., et si on sait utiliser l'outil, on n'a pas de problème hémorragique derrière. Il reste le 1% de phlébite liée à la chirurgie pelvienne, etc. Quoi.
Est-ce qu'il y a une nomenclature sécu spéciale selon le mode d'opération, c'est-à-dire ouvert, célio, robot ? Est-ce que c'est différencié ou c'est prostatectomie, point ?
C'est une très bonne question. En relation avec ce que je disais sur le transfert au système français. Ça coûte beaucoup plus cher de faire une prostatectomie robot que par voie ouverte, évidemment. Et là, célio est entre les deux. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y avait qu'une cotation pour la prostatectomie, c'était JGF-A, je pense, 001, est apparu le C de célioscopie, JGF-C-001 maintenant, mais par contre, pour la prostatectomie dite robotisée, c'est toujours par assimilation la cotation de l'acte célioscopique, et ça fait l'objet, vous l'imaginez bien, d'innombrables tractations de la part des sociétés savantes avec l'HAS, mais on verra quand ça aboutit. Pour ça, il faut reconnaître l'intérêt de la chose, d'où les études nécessaires.
Il y a des exceptions, effectivement, mais en règle générale, la limite d'âge pour la prostatectomie, en général, se situe à maximum 75 ans, voire même un petit peu en dessous. Alors, toujours pareil, quand il y a un patient en vraiment très très bon état, avec pas de comorbidité et pas de facteur de risque chirurgical, on peut discuter, mais il faut garder à l'esprit que que plus l'âge du patient augmente, plus les résultats sont mauvais en termes de continence. Et c'est quand même un argument qui incite à la réflexion et qui doit faire sérieusement envisager les alternatives qui sont la radiothérapie et les ultrasons focalisés.
Donc, pour traiter le cancer de prostate, il existe une technique franco-française, cocorico, qui sont les ultrasons focalisés dits de haute énergie. C'est une technique, donc, a priori, dont vous avez peu entendu parler, dont vous êtes apparemment, enfin, dont vous n'avez pas eu l'occasion de faire bénéficier vos patients. Et pourtant, comme le titre l'indique, il y a déjà 20 ans de recul dessus, quand même. Alors, la prostate, dont on parle depuis déjà un petit moment, aujourd'hui, on l'a classée un peu de cancer indolent à cancer localisé à traiter. Puis, si on se déplaçait encore sur la droite, il y aurait les cancers localement avancés, métastatiques. C'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, les traitements standards et de référence pour le cancer localisé aujourd'hui, il y en a pas 100 000, il y en a deux. La prostatectomie, dont on a abondamment parlé jusque-là. Et puis, l'alternative, qui est un traitement non chirurgical, c'est les techniques dites de radiothérapie, avec la curithérapie, vous savez, les grains d'iode interstitiels, qui intra-prostatiques, mais qui reviennent à une technique d'irradiation, quand même. J'ai parlé de cancer indolent, parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des outils pour évaluer très précisément, au moment du diagnostic, une fois que le diagnostic est fait, le degré d'extension et le degré d'agressivité du cancer. Ça va encore se préciser dans les années qui viennent, mais on commence quand même, avant d'avoir pris une décision thérapeutique, à être capable de dire que tel ou tel patient est porteur d'un cancer indolent. Un cancer indolent, pour faire très simple, c'est une seule biopsie positive sur 0,1 mm, parce que c'est parfois des choses que vous voyez sur les anapathes, avec un PSA de 5 sur une tumeur absolument non palpable. Il faut quand même savoir, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est familier pour vous, que maintenant il y a des protocoles dits de surveillance active, qui consistent à dire aux patients, on ne vous traite pas, par contre on vous surveille, on vous réévalue, par le PSA notamment, par l'imagerie et par des biopsies répétées, à des périodicités affixées, et peut-être, si les choses évoluent, on vous opérera, mais peut-être on vous traitera, mais peut-être pas. Et donc si on peut éviter d'intervenir chez les gens, primum non nocere, on fait peut-être bien notre métier. Voilà. Alors entre les deux, il y a des traitements par agents physiques qui ont émergé, donc l'IFU, en anglais High Intensity Focused Ultrasound, dont je vais vous parler aujourd'hui, dont le nom commercial est l'ablaterme, c'est la machine disponible en France. C'est le traitement par le chaud. Et puis, je les cite parce que ça fait partie des agents physiques qui offrent aujourd'hui la possibilité de traiter le cancer de prostate, mais qui ne sont quasiment pas développés ou qui en sont à un stade embryonnaire. La cryothérapie, donc par le froid. On met des cryoprobes dans la prostate pour traiter par le froid. Et puis la photothérapie par le laser. Bon, ces deux dernières techniques ont quand même un développement très confidentiel, qui est grosso modo là où on était l'ablaterme il y a une quinzaine d'années à peu près. Alors l'IFU, c'est High Intensity Focus Ultrasound, en français ultrasons focalisés de haute intensité, donc des ultrasons qui développent de la chaleur parce qu'ils sont focalisés, la machine s'appelant l'ablaterme, réalisant une ablation thermique du tissu prostatique. Alors ce projet, c'est l'aboutissement de 20 ans de recherche avec une collaboration tripartite très efficace, une unité INSERM à Lyon, puisque ça est né à Lyon, les hospices civils de Lyon, et puis un industriel, EDAP Technomed, qui a développé cette machine. Donc ça a commencé avec des expérimentations logiques. En 93, étude d'efficacité, premier traitement du cancer de l'homme, donc il y a 17 ans de ça. Et puis depuis, des patients ont été traités. Démarquage CE avec une machine qui s'appelle l'imagerie intégrée que vous allez voir sur un très court film qui aujourd'hui est celle qui est utilisée par tout le monde, donc commercialisée depuis plus de 5 ans. Un registre français et européen qui s'est mis en place, toujours dans le même souci d'évaluation prospective, multicentrique, etc. etc. Et puis en 2010, une étude AFU, c'est-à-dire l'Association française d'urologie, sur le traitement focal, que l'ablaterme est le seul à pouvoir réaliser aujourd'hui techniquement, à savoir, le principe étant, d'en dire un petit mot à la fin, le cancer est dans telle partie de la prostate, je ne traite que là, pour toujours être le moins agressif possible. Voilà en gros comment ça s'est passé ces 20 dernières années. Alors la répartition des machines ablaterme et des centres dans le monde, vous voyez, c'est pas rien quand même, cette diapo n'est pas tout à fait actuelle. Aujourd'hui, il y a plutôt 300 centres, 20 à 25 000 traitements qui ont été réalisés dans le monde, dans 35 pays environ. Vous voyez l'évolution des traitements entre 1993 et 2008, où on avait arrêté ces diapositives, ça a été relativement exponentiel. Traitement remboursé chez nos voisins, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. Aux USA, il y a une étude en vue de l'homologation, mais c'est assez difficile de pénétrer le marché américain. Et en France, un peu la même problématique que la cotation du robot dont on parlait. Grosse tractation avec l'HAS qui devrait aboutir cette année pour savoir s'il y a un remboursement ou pas de l'acte. L'acte existant sur le plan de la CCAM mais n'étant pas remboursé pour l'instant. Alors comment ça marche ? Ça délivre de la chaleur. Vous voyez un foie qui a été brûlé par un ultrason qui a cette forme ellipsoïde que vous allez revoir, qui a été délivré de manière expérimentale. Sur le plan microscopique, vous avez l'interface entre un tissu sain et un tissu traité. On voit très bien que d'un côté, ça n'est plus vivace, de l'autre, ça l'est encore. Alors, comment ça marche ? Vous avez cette sonde qui est introduite dans le rectum, vous allez voir ça sur le film, qui délivre, tir par tir, ce qu'on appelle des lésions, la lésion élémentaire étant une espèce d'ellipse ou de cigare de 1,7 mm de diamètre. Cette sonde peut se déplacer de gauche à droite et de haut en bas à l'intérieur du rectum et donc balayer toute la prostate. Quand vous avez balayé la prostate de droite à gauche sur un niveau donné, vous avez fait ce qu'on appelle en anglais slice, c'est une tranche. Et quand vous superposez plusieurs tranches, vous obtenez un bloc. Et finalement, vous traitez un volume. Alors voilà un petit film pour expliquer comment ça se passe. C'est un traitement qui se passe au bloc opératoire sous anesthésie générale, qui est réalisé par un urologue et qui dure 2 heures environ. Je lance le film. Donc voici la sonde. La partie noire délivre les ultrasons et la partie brillante au centre est une sonde d'échographie traditionnelle qui fait des ultrasons traditionnels qui permet d'avoir une imagerie en temps réel et de contrôler pendant le traitement tout ce qu'on fait en temps réel sur l'écran qui est ici. Le patient étant sur ce matelas. Donc il est posé en décubitus latéral droit, endormi complètement. Vous allez voir un traitement effectué. La sonde est introduite dans le rectum avec un préservatif et du liquide réfrigérant à l'intérieur du préservatif pour éviter de chauffer trop la paroi rectale. On balaye la prostate avec la sonde centrale qui réalise une image d'échographie qui permet de faire l'acquisition de l'image. Vous voyez ici la prostate apparaître dans un plan sagittal et transversale, ce qui permet d'avoir les trois dimensions pour faire l'acquisition du volume, le calculer et traiter toute la prostate. Là, on planifie le traitement, c'est-à-dire qu'on dispose les lésions qu'on souhaite faire en bleu. On continue la planification mentalement, enfin on la programme, à vrai dire, en balayant la prostate. Et ensuite, sous notre contrôle, le traitement va se faire. Vous avez ici en orange un tir en train de se faire, le rectum étant ici, la prostate étant ici. En vert, les tirs qui ont déjà été faits. Non, en rouge, pardon. Et en vert, les tirs à venir. Alors là, c'est en accéléré, bien entendu. Vous voyez que la température du rectum est descendue à 17 degrés. Et la distance au rectum est mesurée avant chaque tir, au dixième de millimètre près, pour être sûr qu'on ne tire pas dans le rectum. Parce qu'au début, c'était la crainte, c'était de faire des trous dans le rectum. Et il y en a eu il y a 15 ans quand on a commencé les expériences, enfin le programme. Voilà, la fin du traitement, on retire la sonde. Le patient a une sonde urinaire pendant 4 jours, parce qu'à cause de l'œdème, il est en rétention si on ne lui met pas de sonde. Et il sort en général au cinquième jour ou avant s'il veut bien sortir avec sa sonde vésicale. Alors, à quel patient réserver cette technique en 2010 ? En fait, on a 4 cas de figure. On peut le faire en première intention pour une prostate naïve qui n'a pas eu de traitement à visée curative. Et je vais vous dire, je vais vous donner les critères. On peut le faire en salvage, en situation de sauvetage, après radiothérapie. Quand on est en échec de radiothérapie chez un patient qui a été traité en général plusieurs années auparavant et qui a une récidive locale, vous savez probablement qu'après radiothérapie, on est extrêmement réticent à faire des prostatectomies car les tissus sont très collés. On a une chance sur 3 de faire un trou dans le rectum, Et on a 30 à 40% de chances de rendre le patient très incontinent. Donc, en cas de récidive après rayon, on était assez coincé pour savoir ce qu'on allait faire au patient. Aujourd'hui, on peut faire de l'ablatherme dit de sauvetage. La situation inverse existe. Et c'est assez intéressant. C'est-à-dire que lorsque l'ablatherme a été un échec, et ça arrive, vous allez le voir, il y a environ 15% d'échecs, on peut faire une radiothérapie de sauvetage. Et donc, c'est intéressant parce que ça rend les deux techniques compatibles. Et en termes de services rendus aux patients, c'est probablement important. Et puis, en pointillé, j'en ai dit un mot. On peut aujourd'hui faire un traitement limité avec les ultrasons. Et ce traitement limité, ça a fait l'objet d'une étude nationale qui démarre à l'instant en France. EMI-IFU ou EMI-ablatherme. On va traiter que la moitié des prostates. Alors, en première intention, qu'est-ce qu'on fait? À qui on le réserve? On le réserve à des patients dont le profil est là, selon les critères du CCAFU, c'est-à-dire le comité de cancérologie de l'Association française d'urologie, qui est un peu notre bible et notre fil directeur. Donc il faut que, ça rejoint la question de monsieur tout à l'heure, que les patients soient âgés de plus de 70 ans, parce que c'est théoriquement l'âge où on dit 70, 75 qu'on n'opère plus. En tout cas, il a été convenu que pour l'ablatherme, à cause des problèmes de recul qui jusque-là étaient insuffisants, ça commençait à être raisonnable à partir de 70 ans si on voulait guérir les gens. Pour des tumeurs de stade strictement localisé, c'est-à-dire T2 maximum, c'est-à-dire que ce n'est pas le T3 dont j'ai déjà parlé, il n'y a pas de franchissement de la capsule. Le franchissement de la capsule étant évalué par l'IRM lors du staging, du bilan préopératoire. Le PSA doit être en dessous de 15. Le Gleason, qui est un, vous savez, sur les comptes rendus d'anapath, un indice fort de l'agressivité du cancer, doit être en dessous de 7. 3 plus 4, parce que le 4 plus 3 est plus agressif que le 3 plus 4. Bon, c'est un peu un détail. Le volume prostatique ne doit pas être trop important pour des raisons de limitation technique de la hauteur des tirs, 50 grammes. Et le volume tumoral doit être limité, moins de 4 zones prostatiques à atteindre sur les 6 classiques. Voilà les indications d'aujourd'hui. Ces critères de date de 2007, ils vont être évalués en 2010. À venir, on ne sait pas encore, mais grosso modo, ça sera probablement ça, voire indication un peu élargie, pour faire simple, qui serait concurrentielle de la radiothérapie. C'est-à-dire un traitement non chirurgical par agent physique. Donc il faut savoir que si on respecte ces critères, les résultats, sur le plan oncologique, sont équivalents au traitement standard pour ces critères. Et le remboursement est en attente, je l'ai dit, et c'est donc un frein à la diffusion, puisque aujourd'hui, seuls les CHU sont équipés de ces machines. Dans les centres privés, ce n'est pas possible. Alors les résultats à long terme, ils ont été publiés. C'est juste pour vous dire que les gens qui font de l'ablatherme travaillent, avec des suivis de plus de 5 ans pour chaque patient, des séries qui commencent à être intéressantes. Je passe. Il faut savoir qu'on s'attend à quoi? 77% à 5 ans, de quoi? De survie sans progression, c'est le critère pour le traitement du cancer de prostate. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 5 ans, on a 3/4 des patients qui sont contrôlés quand on les traite par cette technique. Et 1/4 qui ne sont pas contrôlés, pour lesquels il faut se poser les questions de faire éventuellement autre chose. En termes d'effets secondaires, est-ce que l'ablatherme rend les patients incontinents? Oui, un petit peu. C'est-à-dire que c'est le camembert du haut. Vous avez 5 à 6% des patients qui vont présenter des problèmes d'incontinence de grade 1 et 2, c'est-à-dire des incontinences modérées. C'est-à-dire que, grosso modo, on est à peu près sur les chiffres de la prostatectomie lorsqu'on est à terme du suivi, c'est-à-dire à au moins un an de recul. Comment on rend les patients incontinents avec un ablatherme? C'est si on descend trop bas nos tirs au niveau de l'apex puis du sphincter. À ce moment-là, effectivement, la chaleur détruit les fibres du sphincter et peut les rendre incontinents. Donc c'est possible, mais pas dans des proportions très importantes. Et la sexualité, pour en dire un mot. Un petit détail, c'est des patients qu'on évalue d'âge médian de 70 ans, c'est-à-dire qu'ils sont quand même assez âgés. Je vous ai dit que l'âge était le facteur le plus important de récupération des érections après traitement d'un cancer de prostate. Et pour faire simple, il y a à peu près la moitié des patients, 57%, vous voyez, qui sont puissants et qui peuvent avoir des rapports sexuels après un ablatherme. Là encore, tout dépend comment on traite, si on traite très large ou pas. Si on élargit les tirs sur les côtés, on traite les nerfs de l'érection et par conséquent, on rend les patients impuissants. Alors quand on compare aux autres techniques pour les patients dits de faible risque, on classe les patients en faible risque, risque intermédiaire et haut risque, vous voyez le trait rouge, c'est les 77% des résultats de survie sans progression de l'ablatherme, qui se comparent de manière à peu près équivalente avec ce qui se passe et ce qui est produit pour la prostatectomie, je vous ai montré, la cryothérapie dont je vous ai parlé, dont le développement est très confidentiel en France, un peu plus aux États-Unis, la brachythérapie qui est la curie-thérapie, et la radiothérapie conformationnelle, vous voyez qu'ils sont bons plutôt un peu au-dessus, mais où globalement les résultats sont comparables, et puis la radiothérapie externe qui va avec la radiothérapie conformationnelle. Et si on regarde avec les risques intermédiaires des patients qui sont un peu plus atteints, bah, grosso modo, on a à peu près, pour les mêmes techniques comparées, les mêmes fourchettes, avec des, en termes d'ablaterme, des résultats qui sont acceptables. Voilà. Alors, si jamais on veut faire du traitement de sauvetage après radiothérapie, on change de monde. Là, on a affaire à un patient qui a été traité par rayon, vous en avez probablement, dans votre patientèle, dont le PSA commence à remonter. Et donc là, il y a quelques messages à faire passer. C'est qu'aujourd'hui, il y a un traitement à visée curative qui est disponible. Simplement, il faut prouver qu'il y a une récidive locale. Donc, il faut faire des biopsies à ces gens. Parce que quand le PSA remonte après radiothérapie, ça peut être parce que le cancer reprend au niveau de la prostate, ça peut être parce qu'il y a une évolution à distance, ganglionnaire ou métastatique. Il est très important de savoir dans quel cas de figure on est. On ne va pas faire un ablaterme sur la prostate avec un risque de complication que je vais vous montrer chez des patients, alors qu'en fait, la récidive, elle est ailleurs. Donc il faut prouver l'absence de métastase. Les moyens sont limités, puisque vous savez, c'est les scintigraphies osseuses, le scanner, qui, pour des valeurs de PSA de 2 à 10, c'est-à-dire qui remontent doucement après la radiothérapie, ne sont pas très performants pour montrer d'éventuelles métastases, mais enfin, il faut les faire quand même. Il faut savoir quel était le PSA au moment de l'IFU. Bon, ça, c'est plus un discours de technicien. Mais quand même, le message, il est là. C'est ne pas attendre que le PSA remonte trop après les rayons. On a montré, on a présenté il n'y a pas longtemps des posters qui disent que si le PSA remonte après les rayons chez certains de vos patients, si on veut leur rendre service et si on veut leur proposer un ablaterme de rattrapage, il faut que ça soit fait quand le PSA est en dessous de 4. Si c'est quand le PSA est au-dessus de 4, clairement, les courbes divergent et on ne leur rend pas service. Voilà. Donc il ne faut pas attendre trop. En sachant que, vous l'avez sûrement vu, le PSA qui remonte après radiothérapie, ça ne se fait pas dans le mois qui vient. C'est en termes de dizaines de mois, parfois d'années. Hein. Et le rapport risque-bénéfice du traitement est bien à peser parce que là, on a de la morbidité, parce que là, la blatère, les ultrasons interviennent sur des tissus déjà irradiés. Alors, ça a été publié, et en 2004 et en 2008, c'était pour vous montrer. Qu'est-ce qu'on a comme résultat sur le plan oncologique? Les courbes de survie un peu complexes à comprendre, mais en gros, retenez qu'il y a 50% de services rendus. C'est-à-dire que là, on est beaucoup plus modeste dans les résultats, mais quand un patient récidive après radiothérapie et qu'il est candidat à un traitement par ablaterme, on le rattrape dans un cas sur deux, et pas plus. Mais c'est déjà ça quand même, parce qu'avant, il n'y avait rien. Il y avait les hormones à visée palliative. Ce n'est pas la même chose. Alors la toxicité, attention, là on n'est plus dans quelques pourcentages d'incontinence et pas de problème ailleurs. On intervient sur des tissus irradiés. Alors ça a été publié, vous voyez. Alors l'incontinence, c'est ces lignes-là, et on cumule 47% d'incontinence au total, dont 9% d'incontinence de grade 3, c'est-à-dire des incontinences sévères, et dont 6% des patients qui finissent avec un sphincter artificiel. Alors certains sont prêts à encourir le risque pour être guéris, mais il faut qu'ils soient bien prévenus de la chose quand même. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions que l'ablaterme de première intention. Est-ce qu'il y a des problèmes de fistules rectales et d'incontinence anale? Il y en a eu avec les paramètres standards au début, vous voyez, 4%, 9%. C'était avant 95, c'était avant réévaluation des paramètres de tir. Depuis qu'on a mis en place des paramètres de tir dits post-radiation, c'est-à-dire spécifiques aux patients traités par radiothérapie, on n'a plus de problème de fistule rectale. Donc pas de toxicité rectale, mais de l'incontinence urinaire, et de manière significative. Voilà pour le traitement de sauvetage. Alors, je vous le disais, la blatherme échoue dans un certain nombre de cas, et on a une solution à proposer, à savoir la radiothérapie de sauvetage. Donc j'en dis un petit mot, parce que ça a fait l'objet de travail d'un de nos assistants dans le service, et qui est en train de le publier là aussi, parce que c'est important. C'est faisable. La toxicité des rayons faits après ablaterme est plus faible que lorsqu'on a fait l'ablaterme qu'on a fait les rayons en premier, pardon, et qu'on fait un ablaterme de rattrapage. Donc les effets secondaires sont plus faibles. Les résultats oncologiques, je vous ai dit qu'on rattrapait 50% des patients quand on faisait les ablatermes de sauvetage, sont meilleurs quand on les fait après échec d'ablaterme et qu'on fait des rayons. C'est 75%, vous allez le voir, probablement parce qu'on dépiste nos patients en échec plus tôt. Et les facteurs prédictifs d'échec sont connus, ça vous intéresse moyennement, mais le message est encore le même, c'est, il ne faut pas attendre que le PSA remonte trop quand on est après un ablaterme et qu'on est en échec, on l'a montré, mais là on n'est plus en termes de dizaines de mois, avec l'ablaterme à 3 mois on est fixé. Et donc, on peut enchaîner sur autre chose si jamais on voit que le résultat n'est pas bon. Et donc, il y a 75% de patients rattrapés par la radiothérapie, c'est-à-dire plus que dans la séquence inverse que je vous ai montrée avant. Donc, ça a été publié, ça va être mis à jour. Les courbes de survie, c'est celle-ci. Pour 100 patients qui ont été repris de manière très précise, c'est les patients du service de Lyon qui a beaucoup d'expérience sur le sujet, qui a plus de 1000 patients dans sa base. Donc 76% de patients en succès après radiothérapie pour échec d'ablaterme. Toxicité digestive, les rectorragies, les douleurs rectales, pas très importantes. Vous voyez les chiffres assez importants, mais c'est du grade 1 et 2, ça se gère médicalement parlant. Hein. Que ce soit au niveau précoce ou tardif, et pas de grade supérieur à 2, c'est-à-dire pas de toxicité nécessitant des interventions. En termes d'incontinence, on a vu qu'il pouvait y en avoir quand on faisait de l'ablaterme après radiothérapie. Là aussi, il y a pas mal d'incontinence. Au final, on est à 30%, mais il n'y a pas de grade 3. Donc il n'y a pas de sphincter artificiel. Donc il n'y a pas d'incontinence majeure. Elle existe, les patients doivent être prévenus, mais elle n'est pas majeure. Il n'y a pas de différence entre avant et à un an après les rayons, c'est-à-dire là où les patients étaient après l'ablaterme et là où ils sont après les rayons. Donc la radiothérapie ne rend pas les gens plus incontinents. Voilà. Et puis dernier cas de figure, c'est le futur ça, c'est la focale thérapie, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire dépister des petits cancers, ça on sait faire, et c'est dire, bah, il n'y a que là qu'il y en a et on veut traiter que ça. Donc faire des traitements limités. Alors est-ce que c'est possible ? Oui, voilà une prostate en coupe transversale, en jaune des foyers cancéreux. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. Un ablaterme où on traite toute la prostate. L'IFU focal, c'est-à-dire où on va traiter que les foyers, ça serait ça. Aujourd'hui, on n'est pas mûr pour faire ça. On est mûr techniquement, mais on n'est pas mûr en termes de moyens diagnostiques pour dire on fait que ça. Alors, après 2 ans de réflexion, c'était une réflexion nationale des utilisateurs d'ablaterme en France, on a lancé une étude où ça sera un traitement de la moitié seulement de la glande, à condition d'avoir prouvé que le cancer est significatif dans la moitié d'une glande seulement, et qu'il n'y en a pas à côté. Donc cette étude va démarrer. Alors pour quel candidat ? Ça sera pour les candidats dont je vous ai parlé en tout début d'exposé, qui sont ceux à qui on proposerait une surveillance active, mais qui finalement veulent quand même quelque chose, mais pas un traitement radical. Donc c'est une alternative à la surveillance active. Et donc je l'ai mis entre guillemets parce qu'on parle de cancer quand même, c'est pour des tout petits cancers, c'est-à-dire moins de 2 biopsies positives, moins de 1 mm, dans des territoires contigus, il ne faut pas qu'il y en ait dans le lobe droit et dans le lobe gauche, du Gleason à 6 maximum, c'est pas inférieur, c'est inférieur ou égal à 6, et un PSA en dessous de 10. Dans le cadre d'une étude nationale qui est en train de se mettre en place, 6 centres seulement, dont Bordeaux, avec 2 relectures IRM, une à Bordeaux et une centralisée à Lyon. Donc vous voyez, les choses sont faites avec beaucoup de protection, de précaution. Et puis les patients sauront qu'un traitement radical est compris et accepté en cas d'échec de ce traitement, à savoir que les 3 possibilités ont été publiées, sont possibles. Soit ils auront une prostatectomie, soit une radiothérapie, soit un ablaterme complet, si jamais ce traitement partiel ne fonctionne pas. Mais enfin, on a une voie de recherche intéressante qui s'ouvre, et je vous fais le parallèle avec le sein où vous avez vu se développer des tumorectomies après de grandes mastectomies délabrantes. Et pareil pour la chirurgie partielle du rein d'ailleurs dans notre discipline. Résultat attendu d'ici 2 à 3 ans. Donc en conclusion sur l'ablaterme, c'est une technique dont le recul aujourd'hui est quand même de plus de 15 ans, et même si la diffusion est assez limitée comme on l'a vu avec le petit sondage que j'ai fait en début d'exposé, la morbidité paraît acceptable, les résultats aujourd'hui avec le recul qu'on a qui commence à être significatif sont comparables aux autres techniques, ce traitement est répétable, on peut refaire un traitement ablaterme, compatible avec la radiothérapie. Et en 2010, le traitement partiel, une nouvelle ère s'ouvre pour la prostate avec les traitements partiels possibles par ultrason. Donc il y a certainement une place à définir dans l'arsenal thérapeutique. Le capitaine Haddock et moi-même, on vous remercie. On laisse la place aux questions. Heureusement, l'information commence à se diffuser, c'est-à-dire qu'on voit, je vois arriver à la consultation des patients de 55 ans. 55 ans, qui ont été irradiés à 50 ans et puis qui sont en récidive. Des patients comme ça, quand moi j'apprends qu'ils ont été mis sous hormones de manière palliative, hein, vous le savez, parce que l'information n'est pas diffusée, je me dis il faut que je vienne aux journées Victor Segalen pour dire qu'il y a un traitement de rattrapage à visée curative pour des gens de 55 ans, et on en traite, oui. Avec un risque, une morbidité hein, que j'ai possible et potentielle à bien expliquer avant quand même. Hein. Enfin, ils sont un peu aux abois, les gens qui ont leur PSA qui remonte après radiothérapie, quand même. Et on les comprend.
Le premier, c'est, bon, on peut dire en synthèse, pour le traitement de première intention, c'est exactement les mêmes indications que la prostatectomie, en particulier pour le groupe à faible risque, mais dans la tranche d'âge qui est exactement dans le prolongement de la chirurgie. On va dire ça, hein, je crois qu'on peut dire ça pour résumer en une phrase. Et le deuxième, c'est, tu as très bien insisté sur la notion de seuil dans la valeur du PSA avec la notion de seuil pour décider du moment de traiter ces patients porteurs d'une rechute après ablatère ou après radiothérapie. Donc le traitement de rattrapage marche mieux en deçà du seuil et les résultats diminuent au-delà. Je crois qu'il y a un autre élément qui est important en complément du seuil, c'est la cinétique du PSA. De la même façon que vous savez que l'accroissement avant le traitement d'un cancer de prostate par n'importe quel procédé, la vitesse d'accroissement du PSA dans les mois ou les années qui suivent est un élément pronostique très important qui a bien été montré depuis par D'Amico depuis maintenant, je crois, presque une dizaine d'années. Et donc je crois que ça s'applique encore là aussi au niveau de ces patients candidats à l'ablatherme. Après un traitement de rattrapage d'une radiothérapie ou après en radiothérapie après traitement de l'ablatherme. Je crois qu'il faut insister sur la cinétique du PSA.
Allez, bon, ces ultrasons, ça fait quelque chose. Hein, ça fait Jean-Marie le premier, quand je suis arrivé il y a 5 ans de Lyon avec mon ablatherme derrière moi, il se demandait ce que ça donnerait. Et puis il voyait ces patients qui avaient des PSA à zéro un mois après l'ablatherme, il n'en revenait pas. Et effectivement, ça chauffe et ça chauffe fort. Hein. Donc, la chirurgie est très difficile après un ablatherme complet. Mais en début d'expérience, dans les années 95, pour des raisons techniques, on savait pas trop. Donc, on disait, tiens, on va faire un lobe, puis l'autre. Et chez certains patients, pour savoir si ça marchait, on faisait ce qu'on va faire pour le traitement focal. C'est-à-dire, on disait, on fait un lobe et on les opère derrière pour voir et on regarde ce que ça a donné. Et donc, la prostatectomie était pas trop difficile quand on avait fait un traitement limité. Elle est un peu plus compliquée. Et récemment, c'est des équipes allemandes, parce que l'ablatherme, ça leur a plu, ça, aux Allemands, les ultrasons. Donc c'est le pays, bien que ce soit une technique française, où c'est le plus développé, l'Allemagne. Des équipes allemandes ont fait des prostatectomies de rattrapage après échec d'ablatherme et ont montré que c'était possible. Même s'il faut être précautionneux. Voilà. Bah oui, c'est le problème. Hein, c'est très intéressant l'arsenal thérapeutique et on aimerait de toute façon que ça soit diffusé partout, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a un acte, JGNJ 900, c'est les ultrasons focalisés, c'est zéro en face. Donc effectivement dans le privé les types, même nous quand je suis arrivé ici, qu'on a commencé à le développer en Aquitaine et au CHU, bon, on s'est posé la même problématique, il y a une trentaine de CHU qui en font en France. Alors on l'assimile dans des GHS à des patients qui ont des résections de prostate avec comorbidité, parce que souvent on adjoint à l'ablatherme un geste de résection pour réduire un peu le volume. Donc on s'y retrouve un petit peu, mais dans le privé c'est très difficile. Alors en fait c'est pas tout à fait vrai, il y a un ou deux centres en France qui en font, mais qui ont beaucoup de mal. Et ils attendent qu'une seule chose, c'est que l'ablatherme soit remboursé, et là les projets sont dans les cartons, je peux vous dire. Mais ça c'est des tractations d'un niveau politique. Qui ont lieu, qui sont d'actualité.